Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Elle a été sans doute la plus belle femme de son époque, mais aussi l'une des plus cultivées. L'histoire se la rappelle d'abord en tant que grande amoureuse. La reine Margot est aujourd'hui à l'honneur chez Franck Ferrand sur Europe 1. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. C'est Alexandre Dumas, évidemment, qui a popularisé ce surnom de reine Margot donné à Marguerite de Valois, la sœur des rois François II, Charles IX et Henri III, la première femme de celui qui allait devenir Henri IV. Dumas, c'est vrai, l'a un peu caricaturé au passage, pas plus que Michelet, me direz-vous. Eh bien, nous allons essayer, nous, de brosser un portrait fidèle, enfin le plus fidèle possible, de celle que ses contemporains appelaient la perle des Valois.
Et parmi les biographes de la reine Margot, vous avez choisi Jean Castarède.
Oui, Jean Castarède, grand commis de l'État, que connaissent bien les mondes de la culture, de la télévision, du cinéma. Jean Castarède, originaire de ce Gers, où Marguerite a passé elle-même une partie de sa vie, nous allons le voir. Il vient de rééditer chez lui, aux éditions France Empire, sa biographie incontournable de la reine Margot, avec un titre explicite, « La triple vie de la reine Margot ».
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Quel roman que cette vie-là, quel drame plein de rebondissements, cousu de passion, de crise. Quelle existence amoureuse, comploteuse, écrivain, nous dit Jean Castarède. On serait tenté d'ajouter philosophe, tant il y a aussi de métaphysique dans l'épopée terrestre de cette princesse, digne fille de Catherine de Médicis, née à Saint-Germain-en-Laye en 1553. En fait, elle aura surtout été élevée au château d'Amboise, où nous ferons l'émission nous-mêmes ce vendredi. On sera en direct du château d'Amboise, je ferme la parenthèse. Cette reine Margot, morte à Paris, dans le fameux hôtel de la reine Marguerite en 1615, donc 5 ans après la mort de son ancien mari Henri IV. Elle a très peu connu son père, elle a 6 ans à peine lors du fatal tournoi des Tournelles, où la lance de Montgomery va percer le crâne du roi Henri II. Elle n'a pas vraiment été élevée par sa mère. Il faut dire que la régente Catherine avait quand même en charge un royaume en grand danger. Elle avait d'autres chats à fouetter. En vérité, ce sont ses frères qui se sont le plus occupés d'elle. Deux surtout, les plus jeunes, Alexandre bien sûr, le duc d'Anjou qui deviendra plus tard le roi Henri III, et puis Hercule, que dans la famille on appelle François et qui sera duc d'Alençon. La relation entre ces deux jeunes princes et leur petite sœur aura été fusionnelle jusqu'à entretenir un soupçon d'inceste qui n'a pas peu fait par la suite pour la réputation sulfureuse de Marguerite. Très jeune, il faut l'imaginer, elle est plus que ravissante hein, avec ses boucles dorées, avec ses espèces de grands yeux toujours très, très lumineux. Elle fait partie de ces blondes épanouies presque replètes avec des lèvres charnues et des yeux pleins d'étoiles comme les adore le beau XVIe siècle. Très jeune, elle va entretenir, cette petite Marguerite, une liaison passionnée avec le jeune Henri de Guise. Il n'a que 3 ans de plus qu'elle. Il est une sorte de géant, un géant tout à fait charmant. Malheureusement, les Guises sont chefs du parti catholique intransigeant. Vous savez, aucune union n'est seulement pensable avec eux. Et pour Marguerite, on peut dire que l'histoire d'amour s'arrête là. C'est plus qu'un crève-cœur pour elle. C'est une cassure dans sa vie. C'est le début de cette haine sourde qu'elle va nourrir contre le destin qui a fait d'elle une princesse, mais plus concrètement contre sa mère, contre ses frères et surtout contre Anjou, auquel elle en voudra toujours. La raison d'État envisage pour elle de toute autre union, un mariage avec l'infant Charles, le fils du terrible roi Philippe II d'Espagne, vous savez, là, ça rigole plus du tout. Et puis après l'échec de ces négociations espagnoles, un mariage avec le roi de Portugal, Sébastien Ier. Mais assez vite, c'est une alliance avec le parti protestant et avec le royaume de Navarre qui est préparée. Une négociation très compliquée s'engage donc entre Madame Catherine et Jeanne d'Albret, la mère du bouillant roi de Navarre, Henri. Des pourparlers infinis qui aboutiront tout de même, c'est l'épisode le plus célèbre de la vie de Marguerite, qui aboutiront à cette espèce de simulacre de mariage à Notre-Dame de Paris le 18 août 1572. Ça, c'est le prélude, vous savez, de la Saint-Barthélemy. Hein. C'est comme ça que ça commence. Au lendemain du massacre, nous dit Philippe Erlanger, Catherine offre à sa fille de la démarier. Si tu veux, ma fille, tu peux... Marguerite refuse, elle refuse fermement. Qui voudrait maintenant épouser la sœur de Charles IX? Qui voudrait épouser la sœur du roi sanguinaire? Vous savez, nous en avons parlé ici. Vous savez que Charles IX, celui que Gentelet a rebaptisé Charlie IX, hein, Charles a très mal vécu ce célèbre bain de sang. Sa santé décline très vite. Or, son frère Anjou monte dans la foulée sur le trône de Pologne, ce qui fait que certains catholiques modérés, de même que ce qui reste des chefs protestants, commencent à lorgner en cas de vacance du trône du côté du jeune duc d'Alençon. Le mari de Marguerite, Henri de Navarre, est lui-même tout à fait favorable à cette solution, et on va appeler la cabale qui vise à faire monter sur le trône François, le complot des malcontents. Un complot finalement éventé et, comme toujours dans ces cas-là, noyé dans le sang. L'une des victimes sera le fameux Joseph de la Mole, dont Dumas fera un des héros de son drame. Vous savez, il reste peut-être l'amant le plus célèbre de Marguerite, que l'on verra, folle de douleur, monter sur l'échafaud pour aller chercher la tête de son amant qu'elle va faire embaumer. Comment de tels épisodes n'auraient-ils pas galvanisé les écrivains romantiques ?
Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Avec un récit sur Europe 1 qui nous dresse aujourd'hui le portrait de Marguerite de Valois, dite la reine Margot.
Eh oui, cette Marguerite qui a trempé allègrement dans la cabale des mécontents et qui, après l'écroulement de ce château de cartes, va prendre ardemment la défense de son mari et de son plus jeune frère qui sont détenus à Vincennes. Ils sont libérés au moment de l'avènement d'Henri III, mais Henri III restera toujours méfiant envers cette sœur qui, lors de son absence en Pologne, a pris parti contre lui. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le couple Navarre, Henri et Marguerite, est un échec. L'un et l'autre vont multiplier les aventures extra-conjugales, ce qui n'est peut-être pas le meilleur moyen de donner naissance à un héritier, quoique, mais peut-être pas l'héritier qu'on souhaiterait. En l'occurrence, ça n'aura même pas lieu. Lorsque la guerre civile reprend en 1577, Marguerite, qui est tiraillée entre cet époux qu'elle n'aime pas et ce frère qui la déteste, va demander l'autorisation de partir pour les Flandres sous prétexte de prendre les eaux à Spa. Elle effectue une mission diplomatique pour le compte de son frère, Alençon. Mission qui d'ailleurs n'aura pas vraiment de lendemain. Elle a été bonne, pourtant elle a été diplomate aguerrie, cette Marguerite. Et puis, ayant aidé ce frère chéri à s'évader alors qu'il était assigné de nouveau à résidence, elle se retire à Nérac, sur les terres de son mari, Nérac, que son séjour prolongé transforme en une sorte de cour galante où les aventures amoureuses se multiplient. Il y aurait de jolies pièces à faire. D'ailleurs, Shakespeare ne s'y est pas trompé. Il s'est inspiré de cette cour de Marguerite de Valois. Nous verrons tout à l'heure ce qu'il faut penser de la passion amoureuse selon Marguerite, notamment dans sa liaison célèbre avec l'écuyer Champvallon, beau soleil, comme elle l'appelait. Il y a pas mal de sentiments très purs chez elle. Hein. Il y a une forme, on verra en quoi elle est une des adeptes de ce qu'on appelle le néoplatonisme. Mais je ne veux pas avancer trop vite là-dessus. Marguerite revient à Paris en 1582. On l'a dit à cette époque enceinte de Champvallon. Elle possède à la couture Sainte-Catherine une maison délicieuse, l'hôtel de Navarre, qui va devenir une sorte de cour d'amour des temps modernes. On avait parlé des cours d'amour d'Aliénor d'Aquitaine, mais là de nouveau, vous avez des poètes, des musiciens qui viennent parler d'amour, de romance, etc. Une cour, il faut dire, où on ne se contente pas de parler d'amour ni de le chanter. On le fait volontiers. Les relations de Margot avec le roi se dégradent de nouveau jusqu'à son renvoi de la cour dans des conditions particulièrement humiliante pour elle, on les racontera tout à l'heure. Elle ne peut pas pour autant retourner chez son mari qui s'est détourné d'elle et qui file de son côté le parfait amour avec la comtesse de Guiche, surnommée la belle Corisande. C'est là, en 1585, que prend place l'événement le plus étonnant de la vie de Marguerite. Sa rébellion, en quelque sorte. Elle rallie la Ligue catholique. Elle se rend maître de la ville d'Agen avant d'en être chassée, de se réfugier au château de Carla, où son amant du moment, Aubiac, entre en conflit avec le gouverneur de la forteresse. Elle sera plus tard assiégée en Auvergne par les troupes royales, les troupes de son frère. Et puis Henri III, qui a fait pendre haut et court l'amant Aubiac, assigne son indomptable sœur, il l'assigne à résidence au château d'Usson. Attention, l'Usson dont je parle, c'est le Usson d'Auvergne, une forteresse imposante. Voilà donc pour un moment la fauve encagée.
Thank you.
Par le fer et par l'incendie, extrait de l'opéra Les Huguenots, composé par Giacomo Meyerbeer-Franck.
Heureusement qu'on a les romantiques du 19e pour nous donner un peu d'éclat à cette période, parce que la musique de l'époque, évidemment, elle ne nous parle plus tellement à nous aujourd'hui. En 1589 meurt tour à tour, vous savez, au tout début de l'année Catherine de Médicis, bien sûr, et puis très vite le roi Henri III, assassiné par le moine Jacques Clément. Marguerite en profite pour rentrer en relation avec son mari, qui du coup est devenu le roi de France sous le nom de Henri IV. On est en train de changer de dynastie. Henri IV a besoin de négocier avec Marguerite les conditions d'une annulation de mariage. Cette annulation, elle est longue à obtenir, évidemment. Elle ne sera proclamée que le 17 décembre 1599. En 1604, Marguerite revient s'installer à Paris dans un tout nouvel hôtel face au Louvre. Il n'en reste aujourd'hui que la chapelle qui est intégrée à l'école des Beaux-Arts. Cet hôtel va devenir le centre de la vie littéraire de ce tout début de XVIIe siècle. Marguerite, à cette époque, il faut vous le dire, c'est triste à dire, mais elle a beaucoup changé. Elle est devenue, nous raconte cette mauvaise langue de Talmand des Réaux, horriblement grosse, et avec cela elle faisait faire ses carrures et ses corps de jupe beaucoup plus larges qu'il ne fallait, et ses manches à proportion, nous dit-il. Elle avait un moule d'un demi-pied plus haut que les autres et était coiffée de cheveux blonds d'un blond de filasse blanchi sur l'herbe. Elle avait été chauve de bonheur. Pour cela, elle avait de grands valets de pieds blonds que l'on tondait de temps en temps. C'est évidemment pas l'image sur laquelle j'aimerais vous laisser.
Oui, c'est mieux, n'en jetez plus. Hein.
Je préfère donner la parole à Philippe Erlandier. Notre maître ici. Une sorte de grâce, écrit-il, lui permit, malgré les épreuves les plus humiliantes, malgré les liaisons les plus viles, de conserver ce prestige quasi magique par lequel furent subjugués Brantôme, Montaigne, Ronsard, Malherbe et combien d'autres. C'est qu'il émanait d'elle un rayonnement indéfinissable. C'est qu'elle était une humaniste accomplie. C'est qu'elle eut un cœur aussi généreux qu'on pouvait l'avoir dans une cour de soie et de sang. Avec son sourire ambigu, son regard prometteur, ses robes de féerie, la perle des Valois, suprême parure de la Renaissance, a donc mérité de garder son éclat à travers les siècles. C'est celui, nous dit Erlanger, c'est celui d'un bijou rose et noir. C'est le moment de jouer sur Europe 1, puisque jusqu'au 25 décembre, jusqu'à Noël,
exactement,
la hotte de Noël est de retour avec plus de 1000 cadeaux à gagner, Julia.
Et nous vous proposons aujourd'hui de jouer pour des ballotins comprenant 1 kilo de chocolat et truffes. Gève de Bruges à ne pas manger évidemment en une seule fois. Hein. Alors pour vous inscrire au tirage au sort, envoyez le mot de passe et le nom requis par SMS 739 21 50 centimes plus coût d'un SMS, ou bien vous nous appelez au 39 21 34 centimes la minute. Bonne chance à tous.
La hotte de Noël Europe 1. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Nous vous retrouvons, Franck, avec votre invité sur Europe 1, Jean Castared, auteur de La triple vie de la reine Margot chez France Empire.
On peut se demander, écrit Jean Castared, si la Marguerite que la légende a baptisée Margot et dont les cendres perdues n'ont jamais été retrouvées au milieu de celles de sa famille, ne repose finalement pas plus à l'aise au milieu de ceux qu'elle n'aurait jamais dû quitter, c'est-à-dire les artistes qui ont toujours le dernier mot et sont les mieux placés pour deviner ce que Malraux appelait « ce misérable petit tas de secrets ». Voilà pourquoi une des personnes qui l'a le mieux définie, qui l'a le mieux comprise, est peut-être Isabelle Adjani, qui, s'imprégnant du personnage qu'elle portera à l'écran, l'a parfaitement définie dans cette interview du 10 octobre 1991 en ces termes « une enfant mal aimée dans une armure de reine ». Il y a tout dans cette phrase, nous dit Jean Castared, la rigidité qui ne lui convenait pas, l'affection qui lui a tant fait défaut. Mais qu'elle soit enragée ou aimable, qu'importe, comme le docteur Jekyll et Mr. Hyde, n'est-elle pas à l'image de ce que nous sommes peut-être tous, si ce n'est un mystérieux tas de misère ou un misérable tas de mystère, Margot ou les deux faces de Janus. Bonjour Jean Castared.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être des nôtres. Vous avez sous-titré, en tout cas c'est sur la page de titre de votre ouvrage, vous nous dites de la reine Margot qu'elle est amoureuse, comploteuse et écrivain. J'ai envie de dire que le plan de notre discussion est déjà tout tracé. L'image que les Français en ont gardée, c'est évidemment d'abord celle d'une amoureuse.
D'abord, bravo Franck. On devrait vous donner une heure à la télévision tous les jours parce que vous nous faites revivre les grands moments d'Alain Decaux.
Oh, merci.
Il faut que je vais écrire à Fimelin pour lui dire de vous confier
cette
émission.
Je vous accompagnerai aussi. C'est
Elle est extraordinaire. Vous avez un don. J'étais ému en vous écoutant.
Merci beaucoup. Nous en parlerons à Alain Decaux et nous le saluons en tout cas très chaleureusement.
Alors vous voulez savoir si elle était amoureuse.
Ouais. Elle en a eu des amants quand même.
Elle a été très amoureuse. Il y en a un que vous n'avez pas cité, c'est le duc de Guise.
Ah oui, au tout début.
C'est tout à fait au début. Et c'est sans doute pour ça qu'elle ne s'est pas attendue avec son frère. Parce qu'il était aussi jaloux du duc de Guise. Vous savez qu'à ce moment-là, la famille des Guise risquait de remplacer les Valois. Et elle faisait plus que comploter, parce que c'était très dangereux pour la couronne de France. Donc elle a été amoureuse toute sa vie. Elle a même été amoureuse jusque sur son lit de mort, puisque un de ses derniers amants avait 40 ans de moins qu'elle. Donc, c'est vous dire s'il y avait un parfum de scandale.
Il avait 20 ans le dernier, hein, c'est ça ?
Il avait 20 ans. Et elle menait parallèlement ce que François Mauriac appelait le mystico-salo, c'est-à-dire qu'elle avait à la fois fondé une œuvre, un ordre monastique, et en même temps, elle ne s'embarrassait pas de ses amants. Et quand elle était enfermée à Usson, comme vous le racontiez tout à l'heure, elle s'arrangeait pour que les lits soient un peu rehaussés pour qu'elle puisse accéder plus facilement à ses amants.
Ses amants ont donc été innombrables. J'avais une liste là qui a été établie dans les années 30, qui est assez impressionnante. Il y a 28 amants avérés de Marguerite de Valois, mais on pense qu'il y en a eu évidemment un grand nombre d'autres. Elle aurait même eu des enfants naturels ? Est-ce que Champvallon, par exemple, lui a donné un fils ? Est-ce que c'est vrai ?
Non, là, il y a une légende. D'abord, en ce qui concerne les amants, son mari Henri IV l'a battu, puisque on en a 75 recensés que j'ai publiés dans un de mes livres. Et donc, de ce côté-là, il n'y a aucun problème. Il l'avait battu à plate couture. Le drame, c'est qu'elle était stérile. Et c'est tout le thème de mon livre, La triple vie de la reine Margot, parce que je crois que ce couple, qui était quand même très permissif, mais qui était finalement un couple moderne, se serait très bien entendu si elle n'avait pas eu ce complexe de ne pas donner un héritier à son fils, à son mari quand il a été sur le trône de France. Et ensuite, lui-même, il a été très complexé, parce que pendant très longtemps, il s'est cru lui aussi stérile. Et ça a été pour lui, si j'ose dire, une incitation à multiplier les aventures.
On connaîtra la même chose plus tard avec Napoléon et Joséphine, un peu.
Peut-être, oui, tout à fait, tout à fait. Et au fond, il a été très heureux et soulagé quand il a vu qu'il avait des bâtards. Et c'est un peu une des explications de la mésentente du mariage. Mais je crois que toute personne stérile, c'est un sujet que je ne connais pas très bien, mais qui malheureusement, physiologiquement, doit avoir des conséquences, peut avoir des complexes, et c'est très très difficile pour une femme de l'assumer.
Surtout pour une femme qui est l'épouse d'un futur roi de France, en tout cas d'un roi de Navarre dans un premier temps. Alors ce mariage, le prélude à la Saint-Barthélemy, elle l'a très mal accepté évidemment, elle qui avait dû rompre avec son beau duc de Guise.
Oui, elle l'a très mal accepté, d'autant plus qu'il lui a été imposé par sa mère Catherine de Médicis, qui elle voyait très loin, parce qu'elle s'était un peu rendue compte que sa progéniture risquait de ne pas intervenir et surtout il y avait eu cette fameuse prédiction de Nostradamus qui lorsqu'elle était venue ou alors c'est aussi très miraculeux le futur Henri IV était dans la tournée de France qu'avait organisée Catherine de Médicis
avec
Charles IX qui était le roi à l'époque. Et lorsque Nostradamus voit tous les enfants de Catherine de Médicis et notamment Charles IX, il s'interrompt et dit « Ceux-là, ils ne régneront pas longtemps. Et celui qui prendra le trône de France » et il se tourne vers le petit Henri IV qui a à peine à ce moment-là 8 ans. C'est quand même assez exceptionnel. Et donc Henri IV s'est rendu compte à ce moment-là qu'il avait un destin et il a accepté d'épouser la reine Margot. Parce qu'il s'est dit que c'était aussi un moyen, et c'était un mariage qui avait été arrangé à la fois par sa mère Jeanne d'Albret et par sa belle-mère Catherine de Médicis. Donc c'est très beau, ce sont des gens qui sont totalement patriotes, ils oublient leur passion, leurs incitations propres pour la France. Elle est amoureuse, mais elle est aussi une femme d'État.
Oui, elle a tenu son rang, malgré tout ce qu'on a bien voulu dire, notamment au XIXe siècle. La séparation, l'annulation du mariage, la proclamation de nullité, qui n'interviendra qu'en 1599, s'est faite dans d'assez bonnes conditions. Elle s'était réconciliée avec son mari à ce moment-là.
Oui, c'est un tout petit peu plus compliqué. Ça s'est passé très mal au début, parce que l'annulation, comme vous le savez, voulait se faire au profit de sa rivale qui était Gabrielle d'Estrées.
Oui.
Bon, alors ça, Gabrielle d'Estrées, qui était quand même une roturière à ses yeux, parce que elle, c'était une grande princesse.
Ça, c'était pas
Gabrielle
possible.
Gabrielle d'Estrées avait une ascendance moyenne, disons, et par conséquent, elle n'aurait pas supporté Gabrielle d'Estrées. Là encore, Michelet a des termes absolument extraordinaires en disant le droit de Dieu, et même Henri IV, quand il a dit Hic est manus Dei, c'est le doigt de Dieu. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, au fond, il a accepté cette épreuve de la mort de Gabrielle d'Estrées, qui lui avait fait 3 enfants, donc déjà 3 héritiers possibles, et qu'il allait épouser dans les 8 jours qui suivaient. Il a compris ce jour-là que c'était Dieu qui était en train de prendre en main sa destinée, et l'annulation s'est accélérée. Après la mort de Gabrielle, qui est morte en accouchant de son dernier enfant, qui est mort-né lui aussi. Et à ce moment-là, le pape, qui était l'oncle de Marie de Médicis, qui était en lice pour succéder au trône de France et épouser Henri IV, à ce moment-là, l'annulation s'est faite extraordinairement facilement, puisqu'il s'agissait de mettre sur le trône de France la nièce du pape. Donc l'annulation a été relativement
facile.
Là, ça
a beaucoup accéléré les choses.
Absolument.
Cette reine Marguerite a été une comploteuse, nous dites-vous. Dans quel complot a-t-elle trempé et quelle a été son action politique? Nous y venons dans un instant.
Histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et nous sommes toujours sur Europe 1 avec Jean Castaret, qui est économiste, haut fonctionnaire, spécialiste de la culture, de l'audiovisuel et de l'Europe. Et nous parlons avec lui de la reine Margot, Franck.
Oui, c'est aussi un très grand connaisseur du XVIe siècle, de ce beau XVIe siècle, Jean Castaret. Il a publié un certain nombre d'ouvrages sur le sujet. Et donc sur cette reine Margot, dont il nous raconte tambour battant, la triple vie, c'est vrai que c'est un personnage qui a une vraie vie de roman. Et pour tout vous dire, en relisant tout ça, ça me donnait envie, moi, de me remettre au roman historique. C'est vraiment, il se passe quelque chose, il y a un revirement, un coup de théâtre à chaque page. C'est incroyable. Laurent nous demande à ce propos, il nous demande ça via Facebook, quelle est la part du vrai et du faux dans le roman d'Alexandre Dumas sur la reine Margot, Jean Castaret.
Pratiquement tout est faux dans Alexandre Dumas.
Voilà.
C'est un condensé de 4 ans, mais quelquefois la fiction vous fait redécouvrir la réalité. Alors vous m'interrogez sur le côté comploteuse. Effectivement, elle avait sûrement cela dans le sang, et Alexandre Dumas, c'est cela qui l'a le plus intéressé, avec la mole et Coconas. Mais ces histoires de petites poupées que l'on perce avec des épingles, je crois que c'est pas tout à fait vrai. En réalité, c'est pas exactement une comploteuse. Il faut se placer dans l'atmosphère de la cour de l'époque. Malheureusement ou heureusement, c'est l'enfant la plus intelligente de ce couple d'Henri II et de Catherine de Médicis. Car c'est 3 frères qui régneront, non pas sa dimension intellectuelle. Elle est la plus intelligente et elle écrira ses mémoires qui sont sublimes, malheureusement, qui se sont arrêtées en 1582.
Qu'elle a commencé à la forteresse du son, justement.
Elle a commencé quand elle était enfermée. Et justement, parce qu'elle était trop intelligente, elle sentait tout avant tout le monde. Et dans cette période, première période des guerres de religion, elle a eu le sentiment qu'elle pouvait jouer un rôle. Elle pouvait jouer un rôle en réconciliant. Je vous rappelle que la France était éclatée entre 2 blocs, les protestants et les catholiques, et les extrêmes catholiques, comme toujours en France, on a toujours 3 partis, dont un parti extrémiste, et les Guises étaient les extrémistes. Donc elle s'est dit qu'elle pourrait réunir les Valois et les Guises, en couchant avec le duc de Guise, ce qui est un des meilleurs moyens
de sceller une union.
Exactement. Donc ça a été son premier complot. Ensuite, là où elle a comploté, mais très 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 maladroitement, ça a été quand elle s'est révoltée contre son mari, le futur Henri IV, à Nérac. Elle a même levé une armée contre lui. Et là, à ce moment-là, il y a eu un coup de théâtre. À la fois son frère Henri III, le duc de Guise et Henri IV, qui se sont réunis pour la première fois
elle
sur le même thème.
Elle a fait l'unanimité contre
elle. Elle a fait l'unanimité contre elle. Ils ont décidé d'envoyer une armée pour l'arrêter. Et on l'a enfermée pendant plus de 15 ans, ce qui est un record. Et c'est pendant ce temps-là qu'elle a un peu médité, continué une vie de patachon, mais en
et
même
commencé,
temps,
et commencé
à écrire ses mémoires. Et elle avait aussi comploté, quand elle était revenue à la cour de France, auprès de son frère Henri III, et c'est là qu'il s'est mis très en colère, parce qu'il s'est rendu compte que ça mettait un peu la pagaille dans son entourage, et qu'il l'a renvoyée immédiatement auprès de son mari, en disant que... Alors c'était un complot amoureux, c'est-à-dire qu'elle suscitait des calomnies, des médisances, tout ça était insupportable pour le roi. Donc... C'est une comploteuse, mais pas une comploteuse, sauf
ce n'est pas une intrigante, en fait, c'est
voilà.
Ça qu'il faut dire.
Voilà.
C'est plutôt une passionnée qui va appliquer à la politique l'espèce de fougue qu'elle met dans tout, dans tous les états de sa vie, finalement.
Exactement, et sauf l'épisode contre son mari, qui lui est, à mon avis, un coup de folie, et un coup de folie dicté par la jalousie, parce qu'elle s'est rendue compte à ce moment-là, autant elle avait supporté les premières maîtresses de la cour de Nérac qui étaient sans consistance, le jour où il rencontre Corisande d'Andouin, qui est une des plus riches du royaume, une des plus nobles, et qui met toute sa fortune et toute sa force au service de son amant,
Donc le roi de Navarre,
à ce moment-là, elle se rend compte qu'il y a un véritable danger. Elle a très peur. Elle est poussée par la jalousie. Et elle pique un coup de folie, lève des armées à Agen, se révolte. Et révolte, il y a toujours une hostilité entre les deux villes d'Agen et de Nérac, qui sont distantes de 10 kilomètres. Et à ce moment-là, elle est assiégée. Elle perd la face et elle est enfermée à Carla et à Husson.
Il faut dire qu'à Nérac avait résidé une autre Marguerite bien avant elle, qui était la sœur de François Ier, Marguerite d'Angoulême, qui avait elle aussi porté le titre qu'on pouvait appeler Marguerite de Valois. Elle était duchesse d'Alençon. Nous verrons tout à l'heure ce qu'était cette cour de Nérac et surtout ce qu'était la cour qui, autour de notre reine Margot, à Paris, a fait les tout débuts de ce qu'on pourrait appeler l'époque précieuse. Nous revoyons tout cela, nous revisitons cette histoire en compagnie de Jean Castarède. Et je vous rappelle que vous avez encore quelques minutes pour jouer à notre fameuse hôte de Noël.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Court extrait sur Europe 1 de L'aveugle et Dieu, composé par Clément Jeannequin Franck.
Et oui, nous on est comme disait Jean Castarède, ça sent le Vertugadin,
oui,
on est dans l'ambiance de tout ça. Alors, notre reine Margot est évidemment une amoureuse, mais une femme d'État, nous dit Jean Castarède. Elle est une comploteuse, mais une comploteuse qui n'est pas une intrigante. Elle est aussi, et ça c'est un aspect assez méconnu du personnage et sur lequel il faut que nous insistions, elle est aussi, si j'ose employer cet anachronisme, une intellectuelle. Une femme qui aime les auteurs, les écrivains, qui écrit elle-même. Vous avez eu accès, Jean Castarède, à un fonds documentaire qui se trouve à Saint-Pétersbourg, en Russie, et vous avez trouvé des sources assez inédites, notamment des textes de la main même de Marguerite.
Oui, ça a été très émouvant pour moi, car j'ai eu la chance... de rencontrer le conservateur de la bibliothèque de Saint-Pétersbourg dès les premiers jours de la perestroïka. Et c'était pour cette personne un éblouissement de rencontrer des Français avec lesquels elle avait été coupée. Elle-même avait travaillé sur ce qu'on appelle l'index des œuvres de Voltaire, puisque comme vous le savez, la bibliothèque de Saint-Pétersbourg a toute la bibliothèque de Voltaire, qui est une histoire historique qui est assez amusante et que je vais vous rappeler une seconde, vous qui êtes un grand historien.
C'est l'histoire de la Grande Catherine.
C'est la Grande Catherine qui avait obtenu la bibliothèque de Voltaire en échange de l'abandon de l'intervention de sa flotte qui venait au secours de la flotte anglaise qui allait attaquer la flotte française qui partait pour l'indépendance des États-Unis. C'est vous dire si la géopolitique va très loin. C'est la première fois qu'on a échangé 60 000 livres contre l'indépendance des États-Unis. Ça n'est pas rien. Alors le fonds de Saint-Pétersbourg est également lui-même très magique parce que c'est un certain ambassadeur qui s'appelait Dubrovski qui était ambassadeur de France de Russie en France juste avant la Révolution française, c'est-à-dire dans les années 1780, et qui, comme tous les riches ambassadeurs de cette époque, avait beaucoup d'argent, et qui apprend que le fonds, notamment de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés et d'autres, qui comprenait entre autres 60 000 lettres autographes, était à vendre. Il l'achète, arrive la Révolution française, il est obligé de quitter la France comme un émigré, si j'ose dire, et il confie ce précieux lot à M. d'Ormesson, qui était à ce moment-là l'équivalent du grand archiviste et qui a réussi à le cacher pendant toute la Révolution française, ce qui fait que les révolutionnaires n'ont pas pu le détruire. Arrive Napoléon Ier. Et comme vous le savez, dans la période de Napoléon, il y en a eu deux. L'une avec laquelle il s'est très bien entendu avec le tsar de Russie, avec lequel il voulait faire une alliance et se partager l'Europe. Et s'il n'y avait pas eu la fameuse Marie Walewska qui l'a brouillée avec le dit tsar, nous aurions sans doute eu un visage de l'Europe totalement différent.
Une autre moins sympathique, c'est la campagne de Russie. Je vais un peu vite, Jean Castaner, parce que je voudrais qu'on revienne à notre
alors,
Margot.
Je termine en un mot. Napoléon décide de rapatrier ce fonds à Saint-Pétersbourg pour faire plaisir au tsar, avant de se brouiller avec lui. Donc, on trouve ces lettres, et moi, en 1991, j'arrive à Saint-Pétersbourg, et je découvre que j'étais le premier lecteur du XXe siècle. Il n'y avait personne qui avait eu accédé à ce fonds. On l'avait un peu feuilleté au XIXe siècle, mais à cause des événements russes. Donc j'ai recopié des lettres et j'ai eu une grande émotion.
Parce que ce sont de belles lettres. On voit tout l'esprit de cette femme très fine et qui, puisque nous revenons là à l'amoureuse, n'est pas seulement une amoureuse physique, elle est aussi une amoureuse d'esprit, si je puis dire. Elle est adepte de ce qu'on appelle le néoplatonisme, c'est-à-dire il y a une forme chez elle d'exaltation de la passion la plus pure.
Oui. C'est sûrement une grande mystique, une grande croyante, une grande spirituelle. Et surtout, c'est la première féministe. Car c'est elle qui a écrit le premier traité pour expliquer que les femmes sont supérieures aux hommes. Et elle trouve pour cela une vingtaine de raisons et qu'elle analyse, qu'elle développe. C'est un texte qui est absolument admirable et qu'on devrait mettre dans toutes les écoles.
Alors Frédéric nous dit par internet que la légende de Marguerite montant sur l'échafaud pour récupérer la tête de son amant Lamole est une légende tirée du divorce satirique. Je signale que ce texte, ce divorce satirique, il est en annexe de votre propre biographie. Jean Castared, La triple vie de la reine Margot, édité chez France Empire. Merci beaucoup d'être venu nous faire revivre ce grand personnage.
Merci beaucoup.
Bonjour Elena.
Bonjour Franck. Alors de l'amour d'esprit ou platonique à celui des adolescents, il n'y a finalement qu'un pas. Et aujourd'hui, nous allons justement nous intéresser à la sexualité des adolescents, ou plutôt essayer d'en parler ensemble. Et c'est très, très, très difficile pour un parent d'aborder ce sujet avec son ado. Eh bien avec les experts, on va y arriver. Et d'ailleurs, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser au 39-21 et c'est 34 centimes d'euros la minute ou sur europe1.fr de façon un peu plus discrète puisque les ados eux aussi peuvent nous appeler ou nous laisser des messages.
Et les ados ont évidemment le droit aux amours platoniques.
Évidemment.
Eux aussi. Merci
évidemment.
Elena. À demain Julia. Franck.